Des violences en Égypte retenaient notre attention en tout début de semaine. Après l'attaque d'hommes armés lors de la célébration d'un mariage copte dans une église du Caire, le père Bakoum, secrétaire du patriarcat copte catholique d'Alexandrie, n'y voyait pourtant pas des violences interreligieuses mais bien des attentats terroristes aveugles.
C'est une guerre contre le terrorisme. Maintenant qu'il va agir en Égypte, c'est le terroriste contre tous les Égyptiens. Pas seulement contre les chrétiens, mais aussi contre le militaire, les polices et toutes les institutions civiles. Et nous vraiment condamnons cet acte fortement et nous disons aussi que cet acte n'est pas seulement à la volonté de tuer les chrétiens, mais aussi pour divider l'Égypte. Chrétiens contre musulmans.
Mardi, les craintes se portaient vers le Mozambique. D'anciens rebelles de la RENAMO, la force d'opposition, attaquaient un poste de police dans le centre du pays après avoir déclaré la fin de l'accord de paix de Rome. Signé sous l'égide de la communauté de Sant'Egidio en 92, ce texte avait permis la paix au Mozambique après 16 ans de guerre civile. Tout simplement inquiétant, nous disait le père Angelo Romano, membre du bureau des relations internationales de la communauté Sant'Egidio.
Je pense que la situation est grave. C'est une déclaration qui nous préoccupe beaucoup. Mais je pense aussi qu'il y a tout l'espace encore pour éviter les pires. Le gouvernement de Mozambique et les responsables de la RENAMO ont tous les moyens pour se parler directement, pour trouver les pistes et les espaces possibles de dialogue pour le bien des pays.
Afrique toujours, Madagascar réussissait finalement vendredi à organiser des élections présidentielles. Un premier pas pour sortir de la grave crise politique, économique et sociale dans laquelle leur pays, mis au banc des nations, est plongé depuis plusieurs années. Avec pour conséquence notamment de graves carences dans la scolarisation des enfants, Stephen Lowerier de l'UNICEF nous parlait d'1,5 million d'enfants privés tout ce temps d'école primaire.
L'impact sur le futur d'un pays, même le développement économique, est énorme. On sait qu'un investissement dans l'éducation, et commençant par l'éducation primaire, est un très très bon investissement avec un rapport énorme sur le développement économique et le développement en général d'un pays. Bien sûr, ce déficit qu'on a vu les dernières 5 ans va avoir un impact. Et on doit tout faire pour éviter que cette situation continue et qu'on puisse renverser d'une façon ou d'une autre ces tendances négatives de la scolarisation à Madagascar.
On n'oubliait pas la Syrie et l'exode de centaines de milliers de Syriens. L'accueil de ces réfugiés est devenu une charge à la limite du supportable dans les pays voisins de la Syrie. Mais pour les Syriens qui arrivent en Europe, fait-on assez? Le père Samir Khalil, jésuite libanais, demandait sur nos antennes que l'Europe se montre plus généreuse.
Il est à peu près sûr que ceux qui viennent, la majorité ne retournera pas. Il n'y a plus rien là-bas, surtout dans le cas de la Syrie où il y a eu destruction. Ce n'est pas une émigration. L'Europe doit essayer d'être la plus généreuse possible. Il faut sans doute qu'il y ait un budget pour la solidarité. En plus, le monde développé, l'Europe, profite aussi de cette émigration au plan économique. Donc, il n'est pas seulement charitable, il est juste de se dire on doit mettre un pourcentage de notre budget pour aider qui est récupéré par leur aide.
Et en France, l'affaire Leonarda relançait le débat sur le droit d'asile. On parle beaucoup de réduire le délai de traitement des demandes d'asile, notamment pour se conformer à des directives européennes. Mais Antoine de Courcelles de la CIMAD n'y voyait pourtant pas une priorité.
Ce leitmotiv de la réduction des délais, ça fait plus de 20 ans qu'on l'entend. Chirac, en son temps, avait dit exactement la même chose que Valls. Mais ils ne sont pas capables de réduire les délais, tout simplement, parce que après cet objectif de réduction des délais, il y en a toujours un qui vient se greffer de la part des gouvernements qui succèdent. C'est dissuader, soi-disant, les faux des vrais demandeurs d'asile de s'engager dans la procédure. Et comment le dissuader? C'est en rajoutant à chaque fois des procédures supplémentaires qui, finalement, n'ont qu'un seul résultat, c'est d'engorger un peu plus l'administration et donc d'allonger les délais. On dit on va réduire les délais, mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait trop de demandeurs d'asile, donc on va rajouter des exigences, des strates de procédure, etc. Aujourd'hui, les exigences demandées pour accorder le droit d'asile, elles sont devenues tellement exorbitantes qu'évidemment, après, on peut décréter qu'il y a de la fraude parce qu'on a mis la barre tellement haut en termes de preuves, de témoignages, etc., qu'évidemment, on rejette massivement les gens.
Une semaine marquée également par la mauvaise humeur des Européens face à l'espionnage des services secrets américains et le scandale des écoutes de la NSA s'invitait au sommet européen de Bruxelles. Mais que faire de plus? Nous demandions l'avis d'Éric Dénessé, directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement.
Sur le plan du renseignement, il est important que les services, qui ne cessent d'ailleurs de le répéter depuis des décennies, maintenant aient gain de cause vis-à-vis des autorités politiques et économiques, politique en faisant en sorte que nos dirigeants prennent les dispositions nécessaires pour protéger leur communication, leur système d'information, leur discussion. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'acheter du matériel américain, ça veut dire qu'il faut développer une industrie numérique de cryptage, de téléphonie, d'internet, de cloud computing beaucoup plus développée en Europe, parce que le simple fait qu'on achète aujourd'hui ou qu'on stocke nos données numériques sur des serveurs américains, eh bien, facilite l'espionnage. Il y a deux mesures qui pourraient être intéressantes. La première symbolique serait de dire, bah, écoutez, puisque c'est ça, nous accueillons Edward Snowden dans nos pays. Et la seconde, à partir du moment où le nouvel accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis est en cours de négociation, eh bien de durcir les positions, puisque les Américains nous espionnent pour essayer d'améliorer leurs arguments et leurs positions dans la négociation, eh bien on peut à ce moment-là serrer de l'autre côté un certain nombre de robinets.